Santé pour tous. Santé pour tous. Tous les jeudis, Paul-Bénédicte Bolou pilote le rendez-vous consacré à la santé et au bien-être. Interviews, reportages et dossiers ponctuent votre magazine Santé pour tous sur Radio de la Paix.
La police sanitaire reste largement méconnue du grand public, son rôle n'est pas moins indispensable. Ces agents travaillent en coulisses pour assurer la sécurité sanitaire, qu'il s'agisse de la qualité de nos aliments, de la lutte contre les zoonoses ou encore de la prévention des épidémies et autres. Dans un monde où les menaces sanitaires se multiplient, la protection de la santé publique est devenue un enjeu crucial. Dans ce magazine, avec le premier responsable de la police sanitaire de Côte d'Ivoire, nous allons découvrir les missions, les défis, les actions de ces professionnels qui veillent à la sécurité de notre environnement. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans Santé pour tous sur Radio de la Paix.
Les experts de la santé répondent aux questions de santé pour vous éclairer.
Docteur Bozoua aussi, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes médecin spécialiste en santé de travail, directeur de la police sanitaire au ministère de la Santé. Dites-nous, pourquoi une police sanitaire ?
Une police sanitaire en Côte d'Ivoire, parce que le domaine de la santé est un domaine important, c'est un domaine particulier. Une police sanitaire pour aider le ministère en charge de la santé à mieux faire appliquer tous les tests pris en matière de santé dans le cadre de la protection de la santé de la population.
Quelles sont les principales missions de la police sanitaire dans le cadre de la prévention de la santé publique ?
La prévention est permanente dans le cadre de la santé publique. Et cette prévention est l'apanage de toutes les directions du ministère de la Santé, les instituts, les programmes, chacun. En ce qui concerne ces missions, à une mission de prévention. L'intervention de la police sanitaire dans cette prévention, c'est dans l'application effective des directives et autres règlements pris par cette direction-là. Et donc, la police sanitaire veille à l'application de ces directives, de sorte que la répression des contrevenants puisse renforcer effectivement la protection de la santé. La police sanitaire a pour mission de veiller au respect de la réglementation en matière de santé, d'hygiène publique et de couverture maladie universelle, de rechercher, enquêter, constater et réprimer les fraudes et infractions en matière de santé, d'hygiène publique et de couverture maladie universelle. Au vu de ces deux missions, la police sanitaire n'attend pas spécialement qu'il y ait une crise pour intervenir. C'est une mission permanente.
Dans vos activités, docteur, comment la police sanitaire collabore-t-elle avec d'autres institutions pour détecter ou prévenir des crises ?
Cette collaboration, d'abord, part du fait que la police sanitaire peut être saisie par tout le monde, toute la population, y compris les institutions, pourvu que le problème en présence soit relatif à la santé. De sorte que lorsque un ministère ou bien une autre institution nous saisit, la collaboration est immédiate pour que nous, police sanitaire, nous puissions mettre les éléments techniques à disposition, que nous puissions découvrir ce qui ne va pas, pour qu'ensemble avec ces ministères-là, des solutions soient trouvées. Vous verrez par exemple que dans le cadre de la lutte contre les MKIF, ce qu'on appelle communément les médicaments de la rue, il y a une collaboration qui nous permet, à travers une structure qui a été mise en place, qui est présidée par l'AIRP, l'Autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique. Dans le cadre de cette collaboration, qui est multisectorielle, on a plusieurs entités, les entités opérationnelles. Il y a la police sanitaire, il y a la police nationale avec la DPSD, il y a la gendarmerie avec une unité spécialisée pour la lutte, il y a la douane avec même deux unités, il y a l'unité de lutte contre les crimes transnational, il y a l'UCT, il y a l'unité de lutte contre la contrefaçon, plusieurs entités qui nous permettent dans le cadre d'une collaboration de bien mener de façon plus efficace la lutte contre les médicaments de qualité inférieure ou falsifiée. C'est un exemple de collaboration parce que cette collaboration-là nous a permis de plus en plus et nous permet de plus en plus de passer à échelle dans la lutte contre les MKIF.
Comment la police sanitaire intervient-elle dans la régulation des produits alimentaires, de médicaments cosmétiques pour garantir justement leur sécurité ?
C'est le domaine que vous venez de citer là justement, fait partie de la santé. Et ces produits cosmétiques par exemple rentrent dans le grand groupe des produits pharmaceutiques. Et donc la police sanitaire intervient bien entendu. Quand la question nous est adressée, nous faisons ce qu'il faut pour intervenir. Mais nous n'attendons pas seulement que la question nous soit adressée parce que en tant que police, dans nos modes de saisine, nous avons la possibilité de nous auto-saisir quand nous constatons nous-mêmes que qu'un phénomène met en péril la santé de la population. Et justement, dans le cadre des produits cosmétiques, il y a une opération qui est en cours avec des ONG qui ont saisi la police sanitaire. Nous travaillons sur la question et incessamment, il y aura des actions concertées pour protéger nos soeurs et nos mamans contre les méfaits de ces produits-là qui créent d'énormes dégâts dans la population.
Quel type de sanctions sont prévues en cas de non-respect des normes sanitaires?
Toutes les réglementations, que ce soit les grandes entreprises et autres choses, contiennent des sanctions. Au niveau réglementaire, il y a des sanctions. Quand il y a non-respect, ces sanctions sont appliquées. Mais au-delà de ces sanctions, qui sont généralement administratives, il y a des sanctions du domaine du judiciaire. Parce que, en fonction des constats, quand il s'agit de faits qui rentrent dans le cadre d'une infraction, nous enclenchons automatiquement la procédure judiciaire et ces structures-là peuvent passer de la sanction administrative à la sanction judiciaire parce que nous les assignons à la justice.
De quels moyens dispose la police sanitaire dans la répression?
Merci. Le premier moyen dont dispose la police sanitaire, ce sont ses hommes. Et ceux qui composent la police sanitaire, il s'agit d'agents de santé, de cadres de santé qui ont qualité d'agent et d'officier de police judiciaire. La santé, quel que soit l'hôpital, quel que soit le médecin, quand on vous reçoit, la santé a besoin de tranquillité. Quand on hospitalise un malade, justement, c'est pour le sortir de ce monde de bruit, pour l'amener dans une salle où on peut le soigner tranquillement, sans bruit et autres. Et la police sanitaire est dans le ministère de la Santé, c'est une entité de la santé. Donc, nos missions sanitaires, par exemple, se font pas de façon spécifique en envahissant, non. C'est de façon d'abord discrète. Ce sont des enquêtes. Donc, nous recherchons ce qu'il y a à rechercher. Et tant que il n'y a pas de risque sécuritaire, il n'y a pas besoin à se faire accompagner par des hommes en armes, nous n'en utilisons pas. Mais c'est quand nous faisons de faire le constat et que, par exemple, il y a une interpellation à faire, secondairement, nous pouvons faire appel à des entités pour appuyer la mission. Donc, il ne s'agit pas d'une police comme la police nationale pourrait le faire. On vient, on encadre un site et des choses. Ça peut arriver, mais c'est des cas vraiment spécifiques, en cas de péril spécifique.
Face à la désinformation, aux fake news et autres, comment se fait la gestion des informations?
Vous savez, la gestion de l'information à ce niveau est très délicate. Et donc, c'est une gestion bien particulière. Et déjà, il y a un processus qui est établi pour la gestion de ce genre d'informations. La police sanitaire peut être le départ en ayant l'information, mais la gestion de l'information n'est pas l'apanage de la police sanitaire. Cette information est remontée, comme je vous ai dit. Déjà, la police sanitaire, il faut signaler, la police sanitaire est rattachée au cabinet du ministre. Et puis, quand nous avons ce genre d'informations, d'abord, la première autorité que nous informons, l'autorité technique de gestion, c'est bien l'INHP. Donc, nous ramenons d'abord l'information à l'INHP. L'information n'est même pas à notre niveau d'abord envoyée chez le ministre parce qu'il faut prendre l'information, la traiter, être sûr avant de la transmettre. Donc, c'est l'INHP qui s'occupe de ces questions-là. Mais nous lui portons l'information. S'il y a une sécurisation particulière à prendre pendant qu'on donne l'information, nous faisons cette sécurisation, nous informons l'INHP qui se joint à nous si c'est nécessaire ou bien qui nous dit ce qu'il y a à faire. Et c'est comme ça que par la gestion de cet instant-là, par la gestion de l'information. Bien dans nos missions, il y a une des missions qui dit rechercher, enquêter, constater et réprimer. Et donc, dans ce process-là, quand on a des informations, nous allons toujours vérifier. Et quand la vérification est faite et que le caractère fake news est avéré, nous saisissons la direction de communication. Et c'est cette direction de communication qui fait nécessaire pour rétablir la vérité.
Aujourd'hui, quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés?
Le grand défi, faire connaître la police sanitaire à la population. Je pense que c'est ce qui a commencé déjà avec la direction de la communication. L'autre défi, mais qui est essentiel pour nous, c'est qu'il faut réussir à implanter des antennes de police sanitaire dans les autres régions. Mais là aussi, le processus est en marche. Parce que dans le cadre de la réforme hospitalière, il y a des pôles régionaux de santé qui ont été créés. Et nous pensons que dans ce cadre-là, ce déploiement de la police sanitaire pour une meilleure couverture du territoire national est en cours. Et pour nous, parce que la mission est déjà là, nous la menons déjà, mais il s'agit de faire en sorte que nous soyons plus proches des problèmes pour être plus efficaces.
Docteur, je vais vous prendre au mot. Comment, justement, voyez-vous l'évolution de la police sanitaire à l'avenir?
Avec beaucoup d'espoir. Avec beaucoup d'espoir, parce que la police sanitaire a été créée, je crois, en 2004. Et depuis lors, il y a eu des moments où il y avait une véritable ascension, et puis il y a eu des moments où l'ascension était moindre, on était pratiquement statique. Mais mon espoir vient du fait que depuis l'avènement du ministre actuel, les choses bougent comme on ne l'aurait pas espéré, et nous sommes de plus en plus opérationnels. On ne peut qu'avoir de l'espoir parce que, par exemple, je disais que j'avais jamais espéré que la police sanitaire aurait, aujourd'hui, pourrait parler à la population pour dire qu'elle a une police sanitaire au sein du ministère de la Santé qui travaille pour elle et que le ministère de la Santé est engagé à faire en sorte que n'importe qui ne viennent pas à la santé, ne deviennent pas médecins. Et à ce niveau, déjà, il y a des phénomènes qui mettent en péril la santé de la population dont on pourrait parler tout à l'heure. Et nous ne pouvons qu'avoir espoir quant à l'avenir de la police sanitaire.
Quel est l'état des lieux à ce jour ?
Cette question me permet de parler de certains faits. Déjà, des établissements sanitaires privés, clandestins, et à ce niveau, nous avons des missions sur instruction du ministre ou bien sur la base des plaintes que nous recevons. Nous avons deux types de missions que nous menons, mais c'est propre à la police sanitaire. Nous menons des missions d'enquête ciblées parce que quelqu'un porte une plainte sur un problème précis qui peut être peut-être d'un quartier ou bien d'un établissement précis. Nous faisons seulement que cette mission. Mais ce qui est plus efficace pour nous, c'est les missions d'enquête zonale. Alors, il s'agit donc de missions que nous avons dans notre manière de fonctionner qui nous permettent de choisir un district sanitaire. Pour nous, le district sanitaire comporte tout l'air que couvre ce district, donc de procéder par ratissage avec les agents de police sanitaire de ce district sur une ou deux semaines, de vérifier et de contrôler toutes les activités de santé, y compris les établissements sanitaires, de contrôler toutes ces activités, comme je dis, et de procéder à la prise des mesures quand nous pensons que la réglementation n'a pas été respectée. Notamment ici, c'est des établissements sanitaires privés. On trouve souvent des établissements sanitaires privés qui fonctionnent sans autorisation. Quand c'est le cas, on ferme automatiquement. On trouve des établissements sanitaires privés qui ont une autorisation, mais qui ne respectent pas le cahier des charges. Parce que chaque établissement sanitaire privé a un niveau d'intervention qui lui est signifié lors de son autorisation dans la procédure par la direction des établissements sanitaires privés. Et donc, il arrive de trouver un établissement sanitaire privé qui a une autorisation. Je prends l'exemple d'une infirmerie qui, à l'origine, dit autorisation pour être infirmerie. Et quand vous allez, vous trouvez que dans cette infirmerie, on fait des accouchements. La fermeture automatique. C'est-à-dire qu'il a l'autorisation, mais il est fermé au même titre que ceux qui n'ont pas d'autorisation. Parce qu'il fait une activité qui n'est pas de son ressort. On peut trouver une infirmerie. Vous allez, secondairement, ils mettent un bloc opératoire. Il y a ces éléments-là, ou bien un laboratoire qui permettent de fermer donc ces établissements sanitaires. Mais on peut trouver aussi un établissement sanitaire privé qui a son autorisation, qui respecte son niveau d'intervention. Mais quand on regarde le personnel qui exerce, on se rend compte que le personnel n'est pas qualifié pour le niveau d'intervention. Et la plupart des établissements que nous avons fermés, justement, sont des établissements ouverts par des aides-soignants qui ouvrent de façon clandestine et qui exercent dedans, soit en tant que médecin ou bien infirmier. Ces établissements-là, bien logiquement, nous les fermons, même s'ils ont une autorisation, parce qu'ils arrivent à tromper la vigilance. C'est quelqu'un qui avait ouvert, mais ce n'est pas lui qui exerce dedans, il recrute des jeunes pour exercer dedans. Au-delà, on peut trouver également des établissements sanitaires qui ont l'autorisation et tout, mais quand vous voyez les conditions d'hygiène, on ne peut pas donner des soins de qualité dans des conditions d'hygiène déplorables. S'il y a mauvaises conditions d'hygiène, nous procédons également à la fermeture des établissements pour permettre à ces établissements de se mettre à niveau et choses. On peut trouver des établissements sanitaires privés qui sont aux normes, qui ont des bonnes conditions d'hygiène et tout, mais au moment du contrôle, on se rend compte que dans les médicaments qu'ils utilisent, certains des médicaments ne viennent pas du circuit légal. Il y a un circuit légal du médicament en Côte d'Ivoire. C'est ce circuit-là qui permet de garantir la qualité des médicaments qu'on dispense aux malades. Donc lorsque nous constatons qu'il y a des médicaments dans le lot qui viennent du circuit illégal, on considère que vous avez l'habitude d'utiliser des MKIF et on ferme l'établissement pour cette raison-là. Et en termes d'état des lieux, sur la base de ce que je viens de vous citer, il y a aussi certaines personnes, quand on fait l'enquête zonale, c'est soit sur information ou bien une chose, il y a deux possibilités. Il y a le fait que nous-mêmes, nous choisissons des districts, c'est pas programmation, pour faire une enquête zonale, donc on procède par ratissage et on constate en fonction des zones. Il y a aussi le fait qu'on nous appelle pour nous signaler des activités suspectes. Et c'est de cela que je voulais parler. Il y a un phénomène actuellement qui est en cours, c'est des individus qui achètent du matériel d'ophtalmologie et qui rentrent dans la communauté, qui sillonnent le pays. Ils ne sont pas dans les établissements sanitaires, ils arrivent à duper tout le monde et ils procèdent à des consultations foraines d'ophtalmologie. Souvent, ils mettent une procédure de marketing en place, ils sont dans les cas, ils vendent des tickets à la population, tout ça. Ils choisissent soit une école, une église ou bien chose, et ils vont. Pour la population, ces personnes-là qui viennent en blouse, tout ça, ressemblent à des agents de santé. Alors qu'en réalité, à la vérification, les activités de consultation foraine dans le ministère de la Santé, il peut en avoir, mais ça suit une procédure avec autorisation, tout ça. Mais on s'est rendu compte que ces personnes n'ont jamais d'autorisation. Donc, sur la base de ces informations-là, nous partons, nous vérifions, et quand c'est constaté, nous interpellons ces personnes-là. Et les résultats de ce que je viens de dire, ces consultations foraines, ces cliniques privées, de fin 2023 jusqu'en septembre-là, on a ainsi fermé autour de 200 établissements. On a saisi les médicaments, les MKIF, on a saisi 7 tonnes et on a interpellé 46 personnes qu'on a déférées et qui sont donc dans une procédure judiciaire en prison pour être jugées. Et on a saisi autour de 1000 chichas, par exemple, parce que l'interdiction de fumer est une loi aussi qui a été prise par le ministère. Et il y a des décrets, des tests qui l'accompagnent. et la police intervient à l'application. En ce qui concerne les médicaments, la lutte contre les MKIF, il y a une partie de cette lutte que la police sanitaire mène seule. C'est cette partie qui concerne les établissements sanitaires. Ça, nous la menons seule. Maintenant, ce qui concerne les médicaments, comme à Diamé, par exemple, il y a des actions, mais c'est une action collégiale. C'est-à-dire, toutes les forces de lutte dont je vous ai parlé, la gendarmerie, la police, les unités spéciales dont je vous ai parlé, c'est dans ce cadre-là que cette lutte est menée. La lutte, c'est pas forcément les saisies systématiques. Il y a du renseignement. Donc, celle-là, elle est permanente. Et toutes ces entités dont je vous ai parlé là, mènent cette lutte.
Est-ce qu'il est prévu dans cette lutte une communication de proximité auprès des populations pour une sensibilisation accrue?
Oui, il s'agit de veiller au respect de l'application des règlements sanitaires pour la protection de la population. Et bien entendu, cela ne peut passer que par la communication. Et je me réjouissais tantôt de l'accompagnement de la DIRCOM, la direction de la communication, justement. Depuis maintenant, jusqu'à les temps qui vont suivre, l'accent sera mis sur cette communication pour que, la population puisse être sensibilisée, pour qu'elle-même elle puisse faire la part des choses. Dire à la population qu'il y a vraiment un risque, pour qu'on puisse dire à la population de faire attention. Tous ceux qui portent blouse ne sont pas des agents de santé. La population, vous voyez, il y a des phénomènes. Malheureusement, les populations sont victimes. Et malheureusement, les populations elles-mêmes, par manque d'informations, payent leur maladie auprès de ces faussaires-là. Donc, à court terme, vraiment, l'objectif avec la DIRCOM, c'est d'accentuer cette communication de proximité pour que nous puissions atteindre une plus grande cible. Mais cette communication va aussi à l'endroit des prestataires de santé, pour que ces prestataires-là sachent que oui, on donne la santé, mais il y a des règles à respecter. Et il n'est pas question de donner la santé en dehors de ces règles-là. Et de dire à ceux dont je vous ai parlé, qui s'improvisent ou bien qui s'immiscent dans les professions de santé sans avoir la qualification, de leur dire qu'au-delà de la sensibilisation de ce que nous faisons, il y a aussi la prison, parce que le ministère de la Justice est invité chaque fois qu'il y a exercice illégal d'une profession de santé.
Docteur Bouzou, quelles seraient vos recommandations?
Le ministère de la Santé est en train de réussir. De nombreux établissements qui sont construits maintenant, rapprocher les centres de santé des populations. Nous leur demandons d'avoir recours à ces centres de santé publics, communautaires. C'est véritablement l'endroit idéal pour être soigné dans le respect des normes et recevoir des soins de qualité. Et de faire attention à ces nouveaux, entre guillemets, agents de santé qui pullulent dans nos quartiers. Du jour au lendemain, vous voyez, on a créé une clinique. Vraiment, faisons attention. Faisons notre police nous-mêmes et nous sommes là pour que tous les individus suspects qui donnent la santé soient signalés pour qu'on puisse véritablement s'assurer qu'on va à l'hôpital pour soigner sa maladie et qu'on ne parte pas dans ces structures-là pour acheter plutôt des maladies. Parce que, à cause de ces mauvaises pratiques, il y a des faits. Même les cancers qui, dans la littérature, sont plutôt des cancers d'un âge avancé, sont repoussés. On a des jeunes filles qui ont commencé leur vie sexuelle à peine, qui ont des cancers qu'ils ne devaient pas avoir. Alors que le gouvernement et le ministère de la Santé augmentent les centres de dialyse, les malades augmentent. Donc la vigilance doit être mise. Nous demandons donc, la clinique est juste à côté, donc je vais y aller. Il y a des risques. Fréquentons les centres de santé qui sont mis à disposition. Et surtout, avec la couverture maladie universelle qui est généralisée, je pense qu'en respectant ces conseils-là, on pourra éviter beaucoup de maladies et la Côte d'Ivoire ne s'en portera que mieux.
Nous sommes à la fin de cet entretien. Dites-nous, comment contacter la police sanitaire?
Il y a le numéro vert du ministère de la Santé, le 143. On a un numéro WhatsApp, 07 48 82 94 47. À ce numéro-là, vous laissez un message WhatsApp avec votre problème, avec le maximum de précision. Parce que dans tout ce que nous faisons tout pour garder l'anonymat de nos informateurs. Et donc, quand vous envoyez un message le plus précis possible, n'oubliez pas de mettre vos numéros. Mais soyez rassurés, dans nos enquêtes, nos sources d'information ne sont pas divulguées. Il y a aussi le fait que on peut déposer directement une plainte à la direction de la police sanitaire qui est située en zone 3, boulevard de Marseille, non loin de la direction de coordination du programme élargi de vaccination et du centre national de transfusion sanguine. Merci madame.
Radio de la paix.
Bien que la police sanitaire soit encore peu visible, ses actions sont déterminantes pour notre bien-être collectif. Loin des projecteurs, ces professionnels de santé veillent à préserver un environnement sain. À travers ce tour d'horizon des activités de la police sanitaire, il apparaît clairement que leur rôle est essentiel pour maintenir l'équilibre entre santé publique et développement économique. Leur vigilance et leur réactivité face aux menaces sanitaires nous rappellent l'importance de la prévention pour éviter des crises de grande ampleur, par exemple exemple. En mieux connaissant cette force méconnue, nous pourrons tous contribuer à renforcer la prévention sanitaire. Nous étions dans ce magazine de santé avec Dr Bozou Aoussi, médecin spécialiste en santé du travail, directeur de la police sanitaire au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Fin de Santé pour tous, merci et à bientôt.